Alors, bienvenue à tout le monde à ce séminaire du Grécisme, pensée critique et communication. Je vous propose de faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire on a deux intervenants cet après-midi. On va commencer par donner la parole à Oumar Khan, qui est professeur au département de communication sociale et publique et à la faculté de communication de l'UQAM, qui est également chercheur au Grécis. Oumar, pendant maximum 40 minutes, et puis ensuite on ouvrira le débat. On fera une pause de 5 minutes par la suite, et puis on commencera avec Michel Sénécal, qui est aussi professeur à l'UQAM, à la Téléuniversité, en deuxième partie. Voilà. Sur ce, bienvenue, et puis je laisse la parole donc à Oumar sur le titre que vous voyez vous-même, « La critique entre approche et théorie ». Quelques réflexions.
Merci, Eric. Merci à tous d'être présents. Alors, je vais essayer d'expliciter rapidement le titre. Suite au lancement de cette thématique axée sur la critique, j'ai essayé de penser finalement pour les sciences de la communication comment est articulée, comment est pensée la critique à partir de deux sous-paradigmes, deux champs de recherche qui s'intéressent au phénomène de communication. Ces deux champs sont d'une part les cultural studies, les études culturelles, et d'autre part l'économie politique de la communication. Et je suis parti d'une distinction entre la théorie critique historiquement située, telle qu'on la connaît, qui s'est développée principalement durant les années 30 en Allemagne, l'école de Francfort et consorts, et d'autre part une approche critique qui serait finalement une manière d'investiguer les phénomènes sociaux en rapport avec la communication. Dans cette perspective, l'approche critique serait bien sûr beaucoup moins située, beaucoup plus large que l'école critique qu'on peut rattacher à un certain nombre d'institutions et d'auteurs bien spécifiques, bien définis. Je pars d'une analyse, je me suis inspiré de trois auteurs principalement. Le premier, c'est Yves Delahaye, qui a fait un ouvrage qui s'appelle « Dissonance, critique de la communication », ma foi, très intéressant, bien qu'étant essentiellement centré sur l'analyse des phénomènes en France. Mais il se place dans une perspective marxiste qui est relativement précise et qui donne le primat aux phénomènes de production. On va voir quelles sont les implications de ce positionnement épistémologique par rapport aux éléments critiques, on dira. Donc, Yves Delahaye, c'est le premier. Le deuxième, c'est un auteur des cultural studies qui s'appelle Lawrence Grossberg, qui a fait un article qui a eu une grande postérité où il a tenté finalement de penser les études culturelles critiques, critical cultural studies, en disant la chose suivante: les cultural studies classiques, de manière traditionnelle, se sont enferrées à l'articulation entre la culture et la communication. En faisant l'équation entre les deux, elles ont perdu tout leur potentiel critique. Et le troisième auteur, qui est résolument ancré dans l'économie politique de la communication, c'est Nicolas Garnham. Alors, que nous dit Yves Delahaye? Il n'y a pas d'essence de la communication, il n'y a que des situations de communication. Les nouvelles machineries de communication présentées comme les auxiliaires dévoués de la conviviabilité, de la non-hiérarchie et de la décentralisation, voire de l'autogestion, s'inscrivent en fait dans la vaste refonte des contrôles sociaux. Qu'est-ce qu'il entend par ceci? La chose suivante: à partir du moment où des mécanismes classiques d'assujettissement, c'est-à-dire l'autorité parentale, la religion, le fait dans une configuration sociale donnée d'avoir certaines personnes, des notables qui sont en mesure d'avoir une influence sur les acteurs sociaux, à partir du moment où ces mécanismes classiques de l'assujettissement se diluent un petit peu, il y a une nécessité corollaire de monter en puissance finalement de la communication pour contrôler les acteurs sociaux. Là, on parle de communication publique, on parle également de communication sociale dans une proportion très importante. Alors, quatre catégories, quatre points que Yves Delahaye développe La communication est un mécanisme d'assujettissement. Je n'ai pas besoin de m'y appesantir pour ça, je viens d'en parler. Deuxième élément, la communication est un lubrifiant général des rapports sociaux. Ça veut dire quoi, un lubrifiant général des rapports sociaux? Ça veut dire en termes de production, de circulation, de consommation et surtout de reproduction des rapports sociaux, la communication devient centrale finalement dans une analyse élargie des phénomènes sociétaux. Troisième élément qui est essentiel, la communication est un rapport prédateur. La communication n'a pas d'autonomie. La communication se greffe sur d'autres rapports sociaux et permet finalement de rendre plus fonctionnel un certain nombre de choses. McCloskey, en particulier, a montré que la communication va avoir une fonction, par exemple dans le domaine du marketing ou dans le domaine de la vente, va avoir une fonction de rentabilisation, de maximisation de la rentabilité très importante. Donc, quand on parle de rapport prédateur, et ça réfère à des éléments dont on parle systématiquement ici dans le cadre de ce séminaire, c'est qu'il est problématique d'autonomiser la communication en tant que phénomène. Et tout prend toujours place dans un contexte qui la dépasse. Et quatrième élément, développé par Yves Delahaye, l'argent est le médium paradigmatique de la communication. Quand on pense à communication, il faut toujours penser que la communication, finalement, dans une société élargie, le capitalisme, finalement, la société capitaliste avancée dans laquelle on vit, il y a une transformation du mécanisme classique marchandise, argent, marchandise, c'est-à-dire que ce qui arrivait, c'était que l'argent, finalement, servait à acheter d'autres biens et c'était le bien qui était le début et la fin du processus. À partir du moment où on entre dans un processus généralisé de circulation, à ce moment-là, la marchandise devient le lieu de médiation de l'argent qui reproduit systématiquement son propre processus en vue de sa rentabilité. Donc, quatre éléments essentiels avancés par Yves Delahaye ici. Élargissons un petit peu à partir de Yves Delahaye pour voir comment, d'après Olivier Voirol, un spécialiste de la théorie critique allemande, quels sont les quatre moments essentiels de ce qu'il appelle une démarche de la critique sociale. Le premier, c'est le dévoilement et une mise en cause d'un ordre social donné, un ordre social qui se considère comme transparent à lui-même, qui se naturalise. Premier élément. Deuxième élément, une analyse des implications de ces pratiques et de ces dynamiques sur les individus ou les groupes. Donc, on dévoile le phénomène, d'une part, un ordre social donné, il y a des implications en termes d'injustice, en termes de contraintes sur un certain nombre d'individus et de groupes. Deuxième élément. Troisième élément, nécessaire pour caractériser une démarche de la critique sociale, il faut recourir aux catégories classiques de la pensée critique. Il en cite quelques-uns ici. Aliénation, réification, domination, assujettissement, injustice, mépris, etc. Et quatrième élément, une démarche explicite en vue de l'émancipation individuelle, groupale ou sociétale. Et là, on parle d'action, on parle d'intervention sur le réel à partir du moment où une analyse a été faite de mise au jour, finalement, des mécanismes de l'assujettissement. Et le cinquième point, c'est l'entrée communicationnelle, finalement. C'est moi qui le rajoute, ce dernier point. C'est là que la communication intervient comme mise à la disposition des acteurs sociaux des ressources cognitives en vue du changement de l'ordre social. Ça réfère de manière explicite, finalement, à la démarche de Bourdieu dans la sociologie est un sport de combat, effectivement. Il faut entrer dans l'arène politique pour changer de manière très concrète à partir du moment où on parvient à rendre explicite, à rendre conscient pour les acteurs sociaux un certain nombre de contraintes qui pèsent sur eux et qui sont inégalitaires en termes de relations sociales. La théorie critique. On parle d'approche interdisciplinaire. Un certain nombre de disciplines mises à contribution. La psychanalyse, l'économie, la philosophie, l'école de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, la dialectique de la raison. Alors, une perspective qu'on perd de vue parfois, il me semble, quand on parle d'approche ou de démarche critique, c'est la perspective dialectique. C'est le fait que les phénomènes ne se déploient pas de manière unilatérale. Trois exemples. Le premier, dans Dialectic of Enlightenment, le capitalisme a créé les conditions de l'émancipation individuelle et les conditions de la suppression de cette liberté. En d'autres termes, quand on s'intéresse finalement aux phénomènes communicationnels notamment, il est très problématique si on veut déployer une démarche critique bien pensée de se cantonner finalement à une théorie ou à une approche de l'impact. Il y a toujours un survenir, un advenir qui est possible. Il y a toujours un espace de liberté qui est émergent et qui est possible. Donc, le cas du capitalisme ici le montre bien. Habermas aussi, sur ses travaux sur la démocratie athénienne, a montré que la démocratie athénienne, qui sert de manière récurrente, finalement, de modèle de la démocratie participative, avait pour condition d'existence l'exclusion de vastes pans de la société de l'agora de cet espace public, finalement. Et puis, dernier élément, l'économie de marché a permis l'émergence de la démocratie libérale. Là, je réfère aux travaux de Karl Polanyi en particulier, dans La Grande Transformation, qui a montré de manière très précise comment, dans l'Angleterre, avec le phénomène des enclosures, à partir d'un certain moment, il y a un rapport très fort entre l'émergence d'une économie de marché et l'émergence d'une démocratie participative. Or, ces deux catégories sont souvent analysées de manière complètement séparée, en estimant que la démocratie, c'est effectivement plus ou moins dans une perspective normative, quelque chose de souhaitable, alors que l'économie de marché, c'est porteur d'inégalités et de fortes injustices pour les acteurs sociaux. Donc c'est l'articulation entre les deux et le fait de se départir d'une approche qui privilégierait une approche, une théorie de l'impact, c'est là qu'on va chercher finalement la richesse ou le potentiel dialectique de la démarche critique. Alors, je m'approche tranquillement de l'économie politique de la communication. Passage de l'économie politique classique à l'économie politique marxiste ou critique. Et que fait Marx, très clairement, un renversement de l'économie politique classique. L'économie politique classique de Ricardo et Adam Smith, qui s'intéressait finalement aux besoins exprimés sur un marché. On pense à la main invisible finalement qui régule un certain nombre de besoins et qui gère leur satisfaction en vue d'un équilibre sur un espace donné. Alors, avec Marx, on va vers le primat de la production qui est considéré comme le lieu premier, le lieu essentiel de l'analyse des rapports d'échange. Et c'est quelque chose qu'on retrouvera systématiquement, quasi systématiquement dans l'économie politique de la communication, notamment chez Nicolas Garnham. La position privilégiée de la production agit en termes de détermination et non de déterminisme. La différence, c'est quoi? C'est que quand on parle de déterminisme, on pense à une téléologie, au fait que sont déterminés a priori parce que l'espace de la production surdétermine celui de la consommation ou de la réception. Quand on parle de détermination, et c'est une catégorie développée par l'un des auteurs majeurs des Cultural Studies, particulièrement Raymond Williams, quand on parle de détermination, on parle finalement du fait que la production va rendre plus ou moins possible, plus ou moins facile, plus ou moins réalisable certains patterns de consommation, plutôt que de déterminer le contenu même de la consommation. Et dernier élément, tous les émetteurs n'ont pas le même pouvoir dans tous les contextes. J'y reviendrai tantôt avec certains éléments qui sont avancés par Yves Delahaye. Alors là, on parle d'économie politique de la communication. D'après Garnham, dont je me suis essentiellement inspiré pour cette présentation, il faut élargir la communication à un univers qui le dépasse, qui est celui de la culture. Ça réfère aux aspects prédateurs de la communication qui finalement n'est pas autonome, se greffe sur d'autres rapports sociaux. Donc, chez Garnham, ce qui est important, c'est de passer finalement de l'analyse des industries de la communication à l'analyse des industries de la communication et de la culture. Donc, on a une phase d'élargissement, un processus d'élargissement pour prendre en considération une totalité plus vaste. L'économie politique de la culture et de la communication cherche à relier les deux dans l'analyse. Et pour l'économie politique de la culture et de la communication, l'interdisciplinarité est un impératif et l'horizon du dialogue, c'est les sciences humaines. Alors ça réfère là encore à des discussions que nous avons régulièrement ici dans le cadre de ce séminaire critique. L'interdisciplinarité, c'est un horizon, c'est le projet finalement dans lequel tout projet critique bien pensé doit pouvoir s'inscrire. Pour une raison toute simple, c'est parce qu'il est très difficile d'autonomiser à la fois les objets, les approches et les disciplines. Ce n'est pas facile, c'est pour ça que je dis que c'est un horizon. Et d'une part, j'oppose l'approche critique, on va le voir dans quelques minutes avec les cultural studies, et l'école critique dont s'inspire en particulier l'économie politique de la communication. Il y a quand même, malgré un certain nombre de différences, des convergences très claires. L'une des convergences majeures, c'est celle de l'interdisciplinarité et le fait, la nécessité d'avoir recours finalement à un panorama théorique et à des conceptualisations très diverses. Alors, quand je disais tantôt ici, tous les émetteurs n'ont pas le même pouvoir dans tous les contextes. Le dernier point que je rattache au fait de s'ouvrir une perspective dialectique pour ne pas penser de manière unilatérale les rapports entre la production et la réception ou la consommation. Yves Delahaye le développe de manière très précise en disant attention, même quand on s'inscrit dans une approche critique, il faut faire très attention à ne pas préjuger de l'effet de la production sur les pratiques de consommation en tant que pratique, sur les pratiques situées. Et là, quand on parle finalement d'industrie de la communication, de publicité, de communication publique ou sociale, il pose un certain nombre de questions en disant qu'elles sont extrêmement nécessaires pour préciser à quel niveau se situe l'analyse et pour éviter d'entrer dans le biais finalement que la sociologie fonctionnaliste a développé de son côté. A-t-on affaire à des communications marchandes ou pas? Première question très importante. Sont-ce des petites entreprises, des entreprises artisanales, sont-elles marchandes directement ou indirectement marchandes? S'il ne s'agit pas de communication principalement marchande, qui en est l'émetteur? Quelles sont leurs logiques? Est-ce que les communications cherchent à contraindre? Est-ce qu'elles cherchent à construire un consensus? Elles émanent de qui? De certaines classes ou de certaines fractions de classes? Puisqu'entre les fractions de classes, effectivement, on peut avoir. On voit là, on est clairement dans le cadre des catégories social de la démarche critique dont on avait parlé tantôt. Quelle est la portée des communications informatives ou propagandistes, faire savoir, agir ou convaincre, et quelle est la classe d'appartenance des destinataires. Donc, un certain nombre d'exemples qu'il donne pour penser les phénomènes de production et de diffusion de la communication et qui a finalement une incidence sur la manière dont on va conceptualiser la recherche par rapport au phénomène de concentration en particulier. Est-ce que la concentration de la propriété a une incidence directe sur la ligne éditoriale? Ça, c'est le premier volet de la question. Deuxième volet de la question, est-ce que la ligne éditoriale privilégiée a une incidence, ou alors quelles sont ses relations avec la manière dont l'information ou dont la production médiatique est consommée? Alors, voyez, on a deux paliers et ce genre de questionnement nous permet finalement d'essayer de mettre un peu de lumière dessus. Alors, après ce gros premier volet qu'on pourrait considérer comme caractéristique finalement de l'école critique, au sens de l'école critique allemande des années 30 et qui a connu une postérité encore très vivace aujourd'hui. Je m'intéresse aux cultural studies qui, de mon point de vue, développent davantage une démarche critique. Pas toutes les cultural studies, une certaine portion, un certain volet des cultural studies, les critical cultural studies qui se sont construites contre ce qu'elles considéraient comme les cultural studies plus classiques. Alors, les études culturelles sont dès l'origine d'orientation critique. Les auteurs, vous les connaissez mieux que moi, en particulier Raymond Williams, l'un des plus importants, et Hogarth aussi. On a son ouvrage The Use of Literacy, qu'on a traduit par La culture du pauvre, sont très clairement des auteurs qui ont enseigné la littérature anglaise et qui sont d'orientation critique. D'ailleurs, Williams faisait partie de la nouvelle gauche, de la New Left en Angleterre. Alors, à quoi on arrive? À une tripartition de l'analyse relative aux médias. Entre la production, qui s'intéresse au cadre institutionnel, finalement, la textualité, c'est l'analyse critique du mode d'encodage du sens, et là, on va chercher des auteurs en sémiologie, en sémiotique. Et troisième élément, la consommation. Et en termes de consommation, on s'intéresse bien sûr à... On effectue une analyse ethnographique des usages dans le cadre des pratiques populaires élargies. Les pratiques populaires, catégories essentielles, ne sont pas construites contre les pratiques élitistes. Elles sont construites finalement dans une forme de genèse de la sociabilité où les acteurs appartenant aux classes populaires vont construire, vont faire sens, finalement, de la consommation. Alors, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on part de la consommation, médiatique en particulier, tout le défi, c'est de garder le potentiel critique. Le potentiel critique, on le voit tout de suite, à partir du moment où on centre son analyse sur l'univers de la production, la catégorie des producteurs a un certain nombre d'intérêts qu'ils essaient de reproduire. Là, on peut voir, finalement, il devient plus naturel d'analyser, ou plus facile, mettons, en tout cas, d'adopter une perspective critique. Ici, on s'intéresse aux origines, aux trois moments, tout en essayant de garder un potentiel critique. Il s'est perdu en chemin. Bon, je vais revenir tantôt sur ça. Donc, il y a une tentative de comprendre et d'intervenir sur le réel qui nous rappelle quelque chose, l'épitaphe de Marx. Ce qu'il faut, ce n'est plus, je paraphrase, comprendre le réel, c'est le transformer, ou quelque chose, ou pas s'en faut, il me semble. Donc, un intérêt très fort sur les relations entre la culture, telle qu'elle est pratiquée, la catégorie centrale, c'est celle de pratique culturelle, et le pouvoir. Le pouvoir, intérêt pour les institutions, pour la sphère de la production. La pratique culturelle comme interrelation entre ces deux univers, et Stuart Hall a mis en exergue la nécessité de faire un détour par la théorie. On a la théorie critique qui, à partir de trois disciplines, psychanalyse, économie et philosophie, construit finalement toute une architecture théorique pour analyser les phénomènes culturels, des industries culturelles, dans le cadre du capitalisme avancé au XXe siècle. Stuart Hall va proposer non plus de partir d'une théorie pour l'appliquer à des sites, à des contextes, mais de faire un détour par la théorie pour éviter finalement de faire preuve d'un empirisme trop borné, tout en gardant par ce détour par la théorie le potentiel critique qui vient des cultural studies originaires. Donc un intérêt important pour les contextes d'occurrence des activités et des pratiques. En d'autres termes, il est refusé la démarche visant à appliquer une théorie à tous les concepts, à tous les contextes plutôt qu'à tous les concepts. Donc ce qui est important ici, c'est de s'intéresser aux contextes d'occurrence, aux contextes familiaux, socioculturels, professionnels dans lesquels la consommation des médias a lieu. Donc, on part d'une première approche, d'un premier moment qui garde son potentiel critique à une dérive. Alors, le concept central d'articulation dit la chose suivante, il n'existe aucune prédétermination de la production sur la réception ou la pratique. Ça nous rappelle, bien sûr, l'aspect dialectique dont j'avais parlé tantôt, où effectivement, il y a toujours un espace pour le survenir. Et à partir de ce moment-là, il faut appliquer les catégories classiques de la critique sociale. Alors, il arrive à partir du concept central d'articulation, qui gardait le potentiel critique, il arrive un certain nombre de choses. À partir du moment où on considère qu'il n'y a aucune prédétermination de la production sur la réception ou la pratique, à partir de ce moment-là, dans la recherche des cultural studies, le contexte institutionnel de production est progressivement délaissé. Pour la raison toute simple qu'on considère que le contexte institutionnel de production n'a pas d'incidence directe sur les pratiques. D'accord ? Ce n'est pas une théorie de l'impact. Puis, le deuxième moment, ils sont là les trois moments. Production, textualité, consommation. Il s'agissait d'articuler les trois pour pouvoir avoir une analyse des pratiques dans un cadre élargi. À partir de là, on arrive à la chose suivante, on développe le concept d'articulation qui dit qu'il n'y a aucune prédétermination. Ça ouvre la voie, dans la recherche en cultural studies, au délaissement progressif des deux premiers moments. Le contexte institutionnel de production, puis la textualité. Je parlais tantôt de sémiologie ou de sémiotique. Et l'intérêt est centré de manière très importante sur la consommation analysée hors de tout contexte. Voilà la dérive à laquelle on assiste. Et à partir de ce moment-là, va se développer un projet alternatif au sein des cultural studies dont Grossberg est l'une des figures de proue et qui essaie de reprendre les choses en main. Donc, ils disent la chose suivante, le concept d'articulation a été dépouillé de tout son potentiel critique et nous, on va proposer quelque chose qui est les critical cultural studies, les études culturelles critiques. Et elles vont se construire contre autre chose, c'est les communicational cultural studies, les études culturelles considérées comme finalement ayant un biais communicationnel trop centré, trop situé. Donc, un projet de reprise en main. La tripartition initiale est considérée comme un leg de l'approche fonctionnaliste des médias de masse, émetteur, message, récepteur. Donc, une critique très forte de ce point de vue. Et là, il y a un recentrement sur une théorie des relations de pouvoir. Les catégories classiques, aliénation, assujettissement, vont ressortir, vont être développées dans la recherche au sein même des cultural studies. Mais les effets sont à analyser de manière contextuelle et située. On parle de concept de site. Le concept de site devient essentiel ici, puisque le contexte est majeur. On ne peut pas appliquer une théorie en dehors de la prise en considération des spécificités, finalement, du contexte d'occurrence des pratiques culturelles. Donc, le concept de site, confrontation, d'idéologie, permettent finalement un élargissement de la perspective et, in fine, la possibilité de rattacher ces pratiques culturelles situées à des enjeux qui les dépassent en termes de production, à un univers macro-social où les relations de pouvoir pourront reprendre toute leur pertinence. Donc, nécessité d'identifier les liens que la communication, comme discours, comme concept et comme ensemble de technologies, entretient avec les pratiques et les relations de pouvoir. Ça réfère finalement au rapport prédateur de Yves Delahaye, qui est développé ici pour dire qu'il faut effectivement créer du lien pour savoir, en termes de dynamique de relations sociales, qu'est-ce qui se passe. Et une distinction relativement importante par rapport à l'économie politique de la culture, de la communication et de la culture. Là, on refuse l'équation culture et communication. L'équation culture et communication a été développée par Edward T. Holt, quelqu'un qui considère que la communication, c'est de la culture. C'est exactement, il fait une équation très claire. Dans une perspective plus critique, mais qui fait une équation entre culture et communication, on a Raymond Williams lui-même, le père fondateur, dans The Long Revolution, effectivement, qui explique qu'il y a un intérêt et que l'analyse des phénomènes permet de considérer conjointement la communication et la culture comme appartement au même univers. James Curry, Communication as Culture, son ouvrage classique, se situe également dans cette perspective. Par contre, autant Carré que Williams ont une perspective critique extrêmement forte, très posée. J'ai dit tantôt que Raymond Melisande a fait partie de la nouvelle gauche aux États-Unis et c'est quelqu'un qui vient des études littéraires critiques, d'accord, marxisantes. Alors, par contre, cette nouvelle génération des critical cultural studies récuse cette équation en disant qu'à partir du moment où on égale culture et communication, on risque de perdre de vue la totalité dans laquelle s'inscrivent les pratiques culturelles, parce que la communication, comme finalement modalité de création du sens par un individu dans le cadre d'une pratique médiatique, dans le cadre d'une médiation donnée, est toujours située. Et le fait d'égaliser communication et culture fait perdre de vue finalement la perspective globale qui seule peut permettre de développer, de donner de la chair à la perspective critique. Et il y a donc un danger d'un rétrécissement des cultural studies à ce qu'on appelle les communicational cultural studies. Alors, il se distancie d'un certain nombre de choses, à la fois de l'empirisme sans théorie, c'est-à-dire de l'évacuation de tout projet théorique, en disant que les faits ont une positivité, ont une matérialité en eux-mêmes finalement, qui permet de rendre compte des pratiques. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas suffisant. Sinon, on se contente simplement de décrire des faits, des actions, des interactions. Premier élément. Donc, pas d'empirisme sans théorie. Deuxièmement, il refuse d'un autre côté l'application indifférenciée d'une théorie à tous les concepts, à tous les contextes. Une critique qu'ils feront en particulier à l'école critique. Et troisième élément, le nécessaire détour par la théorie qui entraîne trois conséquences à portée épistémologique qui sont les suivantes. La première, la réalité est construite à travers l'action humaine. La deuxième, les cultural studies investiguent ce qui relève des pratiques populaires, c'est ça qui les intéresse. Les pratiques des couches populaires dans le cadre de la quotidienneté, c'est ça qui les intéresse. Sans faire de l'interactionnisme symbolique, tout en cherchant à relier ça finalement au cadre institutionnel plus vaste dans lequel elle prend place. Et troisième élément, toute définition de la culture doit inévitablement rester attentive au contexte dans lequel les pratiques culturelles sont mobilisées. Et il dit que ce n'est pas de l'empirisme, c'est du contextualisme radical. Nous, ce qu'on décide, c'est qu'on ne peut pas être dans un univers philosophique éthéré et prétendre expliquer la praxis, ce qui se passe. Il faut aller se coltiner les concepts. Alors, quand je disais tantôt qu'il y avait un plaidoyer du côté de l'économie politique pour l'interdisciplinarité, c'est exactement la même chose qu'on retrouve ici avec Prosper. Quatre points. La culture et son analyse nécessitent la prise en compte d'éléments et de domaines du savoir hors de la culture elle-même. Ça nous ramène très directement à exactement la même analyse que Yves Delahaye a faite de la communication. Il faut un dépassement de l'objet, de notre objet finalement, disciplinaire, de notre objet privilégié, sinon on ne comprend rien aux phénomènes qui sont en cours. La culture ne peut pas être analysée adéquatement en termes culturels. Les cultural studies rencontrent des questionnements d'autres disciplines. Et ils rencontrent les questionnements d'autres disciplines. Mais il dit la chose suivante, on ne doit pas laisser les frontières de notre discipline déterminer l'étendue de nos questions de recherche. Ce serait le meilleur moyen plutôt de s'enfermer et de scléroser la recherche. Il faut de l'interdisciplinarité, il faut faire des liens, même si ce n'est pas toujours très facile. Et en guise de conclusion, même si la démarche privilégiée n'est pas les mêmes, les critical cultural studies et l'économie politique de la communication et de la culture se rejoignent sur plusieurs points. Premier point, une attention importante donnée au contexte institutionnel et la sphère de la production. Deuxième point, une ouverture, articulation du côté des critical cultural studies et la dialectique comme possibilité du survenir dans l'école critique, soucieuse de ne pas préjuger des effets automatiques de la production sur la réception, malgré la reconnaissance d'une certaine forme de détermination. La détermination vient de Raymond Williams, de Cultural Studies. Elle a été reprise en économie politique de la communication et de la culture par Nicholas Garnham. la valorisation de l'interdisciplinarité dans l'horizon et les sciences sociales, malgré les défis qui y sont reliés. Il y a des défis épistémologiques relativement importants, finalement, au fait de construire à partir de disciplines variées, de regarder ou de construire un même objet de recherche. Ce n'est pas toujours facile, c'est des défis dont il est question. L'élargissement de l'analyse en vue de la compréhension étendue du rôle de la communication dans les sociétés contemporaines destinées in fine à servir un changement social émancipateur. Et enfin, malgré certaines tentatives, les cultural studies et l'économie politique de la communication évoluent de manière séparée. L'une des tentatives, c'était en particulier celle de Morley ces dernières années, qui a, avec son co-auteur, dont je ne me rappelle plus le nom, essayé de finalement fédérer ces deux approches à partir du potentiel critique qu'ils ont de fédérer un projet commun. Mais c'est des initiatives isolées. Pour le moment, c'est deux perspectives qui évoluent de manière séparée encore. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Omar. Alors, la parole est à la salle. Au public, à l'auditoire, je ne sais quel concept employé. J'ai des questions, mais généralement, je les pose en dernier, s'il reste du temps. Ah, est-ce que vous pourriez vous présenter quand vous prenez la parole? Ce qu'on oublie généralement très vite, mais c'est pour l'enregistrement.
D'accord. Alors, devant vous, l'École des médias. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question pour toi. Lorsque j'entendais ce qui pour moi apparaît comme le Saint Graal des sciences humaines, c'est-à-dire l'interdisciplinarité, hein, retrouver le social dans sa synthèse. Originelle, si je peux dire. Mm-hmm. Et je me demandais comment tu voyais ça par rapport à ce même désir d'interdisciplinarité et tout ce qui a conduit, en quelque part, à certains disons, la chute des cultural studies, c'est-à-dire que finalement, face à plusieurs projets théologiques différents, en voulant chuter le l'autre idéologie, on a chuté le bébé de la transcendance, que finalement, les moyens. Les structures sont devenues plus importantes, les processualités au-delà des visées des disciplines particulières. Et je me demandais comment est-ce qu'on pouvait, ou plutôt, comment adressent cette nouvelle vague des critical studies, comment ils adressent ce qui semble avoir été un piège qu'on a déjà éprouvé par le passé, c'est-à-dire que l'interdisciplinarité, finalement, évacue beaucoup des projets individuels, des sciences. Autrement dit, on a plutôt centralisé sur les processualités, les moyens, plutôt que sur ce plan de finalité. Et quand on parle de théorie critique en sociologie et en sciences humaines, cette finalité-là devient importante, finalement. Elles font partie même de la théorie. Et je me demande comment est-ce que dans les critical studies,
oui,
on aborde l'idée de l'interdisciplinarité concrètement, comment ça se passe.
OK. Alors, qui arrive, d'après Grossberg, je ne parle pas pour l'ensemble de cette discipline, d'après Lawrence Grossberg, il faudrait retourner de son point de vue à ce qui était à l'origine, parce qu'il considère qu'il y a eu une dérive, il y a eu une perte. D'accord? Hogarth s'est intéressé à un certain nombre de domaines. Il venait de la critique littéraire. Il a fait des études, finalement, en sciences politiques. Il a enseigné cette discipline-là. D'accord? Alors, ce qui arrive, c'est que le projet interdisciplinaire qu'on retrouve autant dans l'économie politique de la communication qu'au sein des critical cultural studies est posé comme un horizon à atteindre. Mais ils sont sensibles au fait que c'est extrêmement difficile. En d'autres termes, l'interdisciplinarité, ce n'est pas pour un chercheur de mener une recherche et de faire 2, 4 ou 5 notes bas de page sur la psychanalyse ou sur la psychologie. D'accord? Alors, comment ils voient ça finalement? C'est entre chercheurs des cultural studies. Au début, c'était en études littéraires. Après ça, c'est considérablement élargi au sein même des cultural studies. Des anthropologues, on a des politistes, on a des géographes. Par exemple, si vous regardez l'ouvrage de Paul Gilroy, qui s'appelle L'Atlantique Noir, un ouvrage très intéressant qui s'inscrit dans cette perspective-là. Alors, à partir du moment où il y a une ouverture du champ, c'est le fait pour des individus de spécialités différentes de pouvoir dialoguer et construire conjointement à partir de leur domaine d'appartenance. En d'autres termes, l'interdisciplinarité, elle est moins ancrée dans les individus, dans les chercheurs, que dans la synergie, dans le dialogue entre les différents chercheurs. Donc, de son point de vue, à Grossberg, c'est là où on va chercher l'interdisciplinarité. C'est le fait d'avoir, avec l'ouverture du champ, un certain nombre de spécialistes de domaines particuliers qui s'intéressent aux pratiques culturelles et d'avoir une vision croisée, un dialogue, d'accord, à partir de la construction de l'objet de recherche. C'est ça le projet.
Oui. Rapidement, mais c'est un peu le même qu'avait, par exemple, les gens des colloques de Macy's avec la cybernétique. Oui. Ça a tout de même donné lieu à une forme de culturalisme, de systémisme, et qui aujourd'hui, c'est bien connu, je pense, et c'est une tentative de techniciser, hein, comme art et métier, non, c'est-à-dire que de désiologiser, de dépolitiser, on est dans des rapports processuels, qu'on se met en dehors de l'idéologie, justement.
OK.
À ce moment-là,
OK.
Oui, s'ouvrir à ça, ça vaut bien, mais concrètement.
Non, je comprends mieux ta question maintenant que tu l'as. OK. Alors, le concept central, c'est celui d'articulation. Et c'est un concept que c'est pas. Ça vient de Williams et ça vient finalement des Founding Fathers, des pères fondateurs. L'articulation dit la chose suivante. Elle dit ce que la dialectique dit en d'autres termes. D'accord ? Elle dit la chose suivante. Les pratiques, il ne faut jamais essayer de les analyser hors de leur contexte d'occurrence. Alors que la théorie critique va développer un certain nombre d'outils qui vont permettre d'analyser, finalement, des contextes socioculturels relativement différents, malgré l'intérêt pour tel ou tel facteur. D'accord ? En d'autres termes, le potentiel critique émancipateur pour les individus, pour répondre à ta question, il vient de l'intérêt pour le contexte socioculturel dans lequel sont ancrés les individus. Ça, c'est un premier élément. À partir de là, on peut savoir quelles sont les contraintes, la marge de manœuvre, quels sont les espaces de liberté, quels sont les jeux d'acteurs. Premier élément. Deuxième élément, toujours penser en termes d'articulation. C'est-à-dire que quand on analyse la pratique, on analyse la pratique en termes, finalement, de pratique d'interaction entre un sujet, un acteur, et un média ou un dispositif technique. Ce dispositif technique, il a une généalogie. Il vient de quelque part. D'accord ? Alors, c'est l'intérêt, finalement, pour toute la trajectoire avant que le dispositif se retrouve en face de l'individu dans le cadre de la pratique. C'est ça qui permet de garder le potentiel critique, si j'ai bien compris Laurence Grossberg.
Est-ce que tu voulais terminer?
Non, j'avais. Allô? Vous montrez chercheur indépendant, vous me trouvez quelque chose à demander. Moi, j'ai deux questions pour toi, mais je te remercie beaucoup parce que ça m'a vraiment rappelé des bons souvenirs. Non, c'est vrai parce que j'ai beaucoup ça, l'économie, la politique, la culture. Écoute, au début de ta présentation, quand tu parles, par exemple, de la démarche critique sociale, en cinquième lieu, toi-même, tu as ajouté que la communication est un instrument de d'émancipation comme en tant qu'instrument de mise à disposition de ressources cognitives.
Oui, ça va.
Est-ce que tu peux expliciter ça, s'il te plaît?
Oui.
Et m'illustrer ça avec des exemples.
Oui. Alors, les quatre catégories, c'est celle de Yves Delahaye.
Oui.
OK. La cinquième catégorie, oui, elle est de moi, puisqu'on est dans un séminaire critique sur la communication. Alors, c'est en rapport avec l'émancipation. L'émancipation, comment elle intervient? Elle peut intervenir de deux manières. On peut intervenir sur les milieux pour changer, finalement, l'économie des rapports de pouvoir, des rapports de domination. On peut faire une autre chose, c'est ce que Bourdieu a essayé de faire, c'est ce qu'il a dit explicitement qu'il a essayé de faire, c'est de favoriser finalement une prise de conscience par les acteurs sociaux eux-mêmes, finalement de rompre la transparence dans laquelle les acteurs sociaux se mouvaient auparavant. Alors, c'est exactement ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a un design de recherche critique, de mettre comme ressource, finalement, à la disposition des acteurs, ce à quoi on est parvenu, ou finalement, les catégories de l'analyse, de manière qu'ils puissent les approprier pour dévoiler et pour agir sur le réel en tant qu'acteur autonome. C'est ça okay, que j'entends.
J'en viens, parce que est-ce que tu pourrais m'illustrer ça?
Ok, un exemple. La sociologie est un sport de combat. C'est un film. Ok, très bien. Il va dans les banlieues et il fait des conférences. Il fait une conférence avec ses rejetons d'immigrés depuis 30, 40 ou 50 ans qui sont nés en France. Et il essaie d'expliquer finalement quelles sont les contraintes qui pèsent sur la vie et sur les actions vécues de manière autonome par ces acteurs sociaux, par ces jeunes des banlieues. Et ils le prennent très mal. Je ne sais pas si tu te souviens assez bien. Ok. Alors, ce qui arrive, c'est exactement ça dont je veux parler. C'est sortir de sa tour d'ivoire et finalement, quand je parle d'aller se coltiner le réel, non pas d'écrire dans des revues savantes qui seront lues par deux pelés et trois tendus, mais finalement, d'aller sur le terrain, effectivement, et d'échanger, même si c'est difficile, même s'il y a de la résistance, de faire finalement connaître ou partager par ceux qui sont intéressés au premier chef les résultats de la recherche. C'est ça que j'entends de penser.
J'ai une autre question express.
Oui.
Quand tu parles du questionnement critique de l'analyse des communications, je pense qu'il est encore question. C'était juste avant que tu abordes le Rural Studies.
Oui.
Tu évoques, est-ce qu'on a affaire à des. Quand tu parles des petites entreprises versus les entreprises artisanales,
oui.
Indirectement marchandes,
oui.
Est-ce qu'on ne confond pas ici entre marchandisation et industrialisation?
Pourrais-tu préciser?
Parce que marchandisation, c'est pas à ce moment-là l'injection d'une valeur monétaire dans un bien.
Ça, ce serait marchandisation?
Oui. Et c'est parce que quand à ce moment-là, tu parles, disons, de taille d'entreprise, tu cherches à ce moment-là à faire une distinction ou en tout cas à opérer une nuance par rapport à la grandeur d'entreprise ou au type de production de cette espèce d'entreprise-là.
Okay.
C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu vois un degré plus ou moins important de mécanisation qui est une caractéristique de l'industrialisation. C'est parce que toi, tu utilises directement le terme marchandisation.
OK. Faudrait peut-être préciser.
Oui.
Tout ce slide-là, il vient de Yves Delahaye, il ne vient pas de moi.
OK.
Donc,
à ce moment-là,
oui.
Donc, son concept de marchandisation, c'est quoi?
Son concept de marchandisation, je serais bien incapable de te le dire.
OK. Mais ta compréhension,
là? Ben, la différence, la distinction par rapport à ma propre compréhension que j'ai de la marchandisation par rapport à l'industrie. L'industrialisation, finalement, c'est un processus beaucoup plus macro que le phénomène de marchandisation. Il a à voir avec une transformation finalement des modes de production, des éléments de technologisation relativement avancés. Donc, niveau macro au niveau des structures même du système économique. La marchandisation peut référer finalement en termes d'interaction, c'est finalement des éléments qui auparavant échappaient à l'univers marchand qui en viennent, ben, Marx le dit très bien, valeur d'usage progressivement être pénétrée par la valeur d'échange. Donc ça c'est un processus finalement qui nous échappe tous, mais qui diffuse sur le corps social, c'est ce que je pourrais en dire.
Je te remercie beaucoup.
Merci à toi.
Oui, Antonin Sapereau, doctorant ici même en communication. Je voulais rebondir justement sur le cinquième point que tu as ajouté à Delahaye.
Oui.
Moi, je vois mal comment. Pour moi, Delahaye, c'est vrai que j'ai une lecture de Delahaye qui est très influencée par les travaux qu'il a fait avec. Pour lui, il critique la communication, il n'y a pas d'issue. Quoi. C'est-à-dire que j'ai du mal, moi. Pour moi, le cinquième point, c'est pas un point, c'est une critique de Delahaye.
Okay.
C'est-à-dire que le cinquième point, je ne l'ajouterai pas à Delahaye, je critiquerai Delahaye avec ça. Pour moi, Delahaye a une position très critique sur la communication, c'est un propos, c'est une utopie sociale, etc. Pour lui, penser la communication comme émancipation, c'est presque antithétique. Donc, je ne sais pas, soit j'ai une mauvaise lecture de Delahaye, soit il y a quelque chose, mais j'ai l'impression que ta proposition, pour moi, serait plus plus une critique de lui alimentée par d'autres auteurs que je préfère largement d'ailleurs, notamment les Cultural Studies, la version critique. Pour moi, oui, eux, ils pensent effectivement qu'il y a une version émancipatrice possible. Mais en ce sens, ils sont
opposés de la...
Enfin, moi,
c'est ma lecture. Oui. Alors, il faudrait dire, par rapport à Dissonance, que c'est une œuvre posthume. C'est des articles qu'il a écrits qui ont été rassemblés par Miège après sa mort. Alors, Delahaye, je l'ai lu précisément, je l'ai relu, cet ouvrage-là en particulier. Il a une analyse très critique de la communication, en particulier en termes d'assujettissement. Mais par le même mouvement, il n'arrête pas de mettre en garde contre, finalement, cette tentation de penser que, ce que tu es en train de dire, que c'est un univers fermé dont on ne sort pas. En d'autres termes, la communication comme objet, comme technologie, à la fois technologie matérielle, ordinateur, mais comme technologie d'assujettissement et comme discours, finalement, est en train de pénétrer de manière très profonde les sociétés modernes. Mais, par le même moment, il dit, attention, on ne peut jamais préjuger de ce qui va se passer. Tantôt, quand il posait la question, finalement, les communications, est-ce que c'est des communications marchandes? Elles sont faites par une classe, par une fraction de classe. Elles s'adressent à qui? Dans quel contexte? Il laisse là une ouverture pour le survenir. Finalement, pour réinterroger, pour mettre à distance la tentation qu'on pourrait avoir de dire, effectivement, ça vient du haut et ça contamine le bas. Premier élément. Deuxième élément, je suis absolument d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai pris la peine de dire que ça, c'est moi qui l'ajoute. À ce moment-là, ce serait peut-être, je suis allé loin, on dira, ok, c'est une radicalisation de mon point de vue, en parlant, effectivement, parce qu'on le voit tout de suite, ce point, quand on parle d'émancipation, de possibilité, finalement, de, pour les individus, de construire une forme de conscience qui mette à distance l'hégémonie. Effectivement, tu as raison, ce serait peut-être poussé un peu fort, ce que j'assume quand même.
Je vais me permettre d'intervenir, puisque c'est dans la droite ligne de ce que tu dis. Peut-être que Michel se souviendrait du titre de l'article. Yves Delahaye, alors je ne me souviens ni du titre, ni de l'année. Mm-hmm. Si ça vous intéresse,
comment les technologies de communication transforment les rapports sociaux.
En fait, où Yves Delahaye met bien en exergue en fait trois logiques sociales de la communication.
Quatre.
Ah. Il me semble que moi j'en avais pris trois dans ma thèse, puis j'en avais créer une quatrième, mais en fait, il y en a une des trois qui m'intéresse plus particulièrement, parce que ça rejoint ce que tu disais, en disant que les logiques sociales dépendent des acteurs sociaux, et que, et tout ça évidemment est plus complexe que ce que je vais dire, mais grosso modo, l'État a des politiques de communication qui visent avant tout à créer du consensus. Les entreprises privées, le capital a pour logique sociale en matière de communication de mettre l'accent sur l'apolitisme et sur la marchandise. Et les mouvements sociaux ont pour logique sociale justement de créer à travers la communication de la conflictualité.
Le mot affranchissement
est prononcé. Voilà, donc ça répondrait aussi à Antonin. Mais c'est pas dans le même écrit. Je ne sais plus s'il a été écrit avant ou après. Il est mort très jeune. Je sais
avant,
pas.
Probablement.
Il est écrit de son
vivant. Oui, bon. Ça veut dire que c'est avant.
Il est mort après. Ouais.
Mais c'est dans sa thèse de doctorat, manière d'écrire l'actualité.
Mais en fait, il y avait une quatrième, la sociabilité, la logique de la sociabilité. Et donc, il y avait tout un autre temps qui est intéressant maintenant pour la lumière de ce qui s'est produit.
Merci.
Qui veut la parole? Parce que sinon, je vais la garder. Bon, ben, je vais la garder un instant. André, excuse-moi,
C'est pour le.
Bon, alors j'y vais. Alors, par quoi commencer? Je vais essayer d'être le plus concis possible en disant. Alors, je vais dire, j'ai pas l'habitude, mais je vais dire que. Alors, je parle du point de vue de l'économie politique. Communication ou culture, ça me fait penser à deux ouvrages. Je pense que l'ouvrage où il y a une espèce de tentative de synthèse, en partie en 96, c'est de Moscou, c'est Économie politique de la communication. Et il y a un autre ouvrage qui paraît quelques années plus tard, qui est un ouvrage collectif cette fois, qui est co-dirigé par Calabrese et Sparks, qui parle d'économie politique de la culture. Mais en fait, quand on lit les textes, les chapitres de Moscou et les textes présents dans le recueil de Calabrese et Sparks, en fait, on retrouve en effet beaucoup d'éléments qui sont conjoints. Oui, alors donc, et je parle à la fois du point de vue de l'économie politique de la communication et de la sociologie critique. Et vous allez voir pourquoi j'intègre la sociologie critique. Tout d'abord, parce que je pense qu'il n'y a pas ni politique ni économie sans social, sans rapports sociaux. Je pense en effet, alors tu pourras, parce que ça va plutôt être un commentaire, mais j'ai aussi une question. Je pense en effet que les rapports sociaux sont premiers par rapport aux rapports communicationnels. Et que les rapports communicationnels, en fait, se greffent sur des rapports sociaux. Mais là, je suis persuadé qu'au sein, par exemple, de la faculté de communication, j'aurais bien des collègues qui ne seraient pas d'accord du tout avec ça. Ensuite, autre élément par rapport à ce que tu disais, le fameux circuit marchandise-argent-marchandise qui se transforme argent-marchandise-argent. Je pense que là, il y a un auteur qui est passionnant, qui est Michel Freytag, qui montre comment, à partir d'Aristote, Aristote, Marx, et puis lui, entre autres, il y a une analyse Aristote parle de rapport entre la crématistique et l'économie, et Aristote prévoit déjà le moment où dans l'histoire de l'humanité on va basculer en fait d'une domination du social sur l'économie à une domination de l'économie sur le social. Marx évidemment en parle aussi, et Freytag estime que c'est au cours du dernier siècle en fait qu'on a abouti à ce basculement où dorénavant c'est le social qui est au service de l'économie. Ce qui a tendance, évidemment, de ce point de vue-là, donner de l'eau au moulin aux chercheurs en économie politique de la communication. Mais j'essaye de voir comment on peut dépasser à la fois une vision linéaire, qui serait production, distribution, consommation. On peut la compléter par une vision qui est circulaire, production, distribution, consommation, reproduction, production, etc. En fait, par un double schéma, sauf que cette reproduction... La reproduction n'est jamais la même, hein, ça ne fait jamais à l'identique. Hein. Certains économistes ou socio-économistes, je dirais, parlent de reproduction élargie. Autrement dit, il y a une dynamique qui est ni linéaire ni circulaire, mais qui, alors je ne sais pas très bien comment on pourrait la dessiner, parce que c'est ni une droite ni un cercle. C'est un double processus, en fait, mais on n'arrive jamais à un moment où on se retrouve, par exemple, au niveau de la production, de la distribution, on ne se retrouve jamais où on était à un moment présent précédemment.
C'est l'éternel retour.
L'éternel retour, oui. Mais l'éternel retour qui n'est jamais, en effet, le même, j'allais dire. Et c'est pour ça que je relirais. Alors, je pense, en effet, je vois les travaux qui ont été faits en économie politique de la communication depuis très longtemps. Et les préoccupations en ce qui concerne la réception, par exemple, ont été très souvent absentes.
Oui, c'est sympa.
En partie, tu l'as très bien expliqué, parce que ça n'était pas considéré comme un moment prioritaire. Mais à mon avis, si on veut faire le travail, non plus de façon linéaire, mais faire le travail de façon en boucle, je pense que là, il faut coupler vraiment la démarche en termes d'économie politique par une démarche en termes de sociologie critique. Alors on pourrait, je pense, la boucle peut se faire par exemple avec, pas spontanément, mais de mon point de vue, je pense que Bourdieu peut être d'un apport considérable. On sait aussi quels sont, les points de lien ou d'achoppement entre Bourdieu et les cultural studies. Non, mais ça, voilà, ça c'était mon commentaire. Maintenant, j'ai une question qui m'interpelle parce que, vu du point de vue de l'économie politique donc, et de la sociologie critique, j'ai l'impression, on a plutôt l'impression que les cultural studies sont extrêmement éclatées, qu'elles se sont éparpillées un peu dans le monde entier, mais surtout à partir, du monde anglo-saxon, toutefois, qu'elles sont devenues extrêmement présentes, par ailleurs, en connaissant un gros développement, mais que la grande majorité des cultural studies, finalement, a été vers une espèce de, pas de fusion, je dirais, mais vers une espèce de rapprochement avec les usages et gratifications en fait, du fonctionnalisme. Et parce que moi, quand je lis des travaux, que de choses te disent, la plupart du temps, ben, je ne vois pas du tout de replacement de la production culturelle, des pratiques culturelles, je ne vois pas du tout de reclassement, ou très peu, des pratiques culturelles dans le contexte institutionnel, dans le macro. Le macro disparaît à peu près complètement. Et j'aimerais bien savoir, alors, quelles sont les relations, puisque tu distingues les critical cultural studies, et puis j'allais dire les cultural studies de façon plus globale, quels sont les rapports depuis quelques années. En plus, les cultural studies, en fait, sont venues quand même d'un refus quasiment d'institutionnalisation des recherches dans certains cadres. Il y a des chercheurs à l'origine, première génération, qui étaient considérés comme étant plus ou moins marginaux dans leurs enceintes universitaires. Et on voit assez rapproché, je dirais quoi, ça date des associations internationales de cultural studies, ça date quoi, d'une dizaine d'années. Mais alors comment la branche critical, par exemple, est considérée par rapport à... De façon plus vaste. Voilà, c'était ma question, mais tu peux réagir à l'ensemble. En tout cas, j'ai trouvé ça passionnant.
Ok, alors, les cultural studies sont frappés, finalement, de la même fragmentation que nous en communication. Il y a une convergence entre cultural studies et quelque chose qui a émergé en Inde qu'on appelle les subaltern studies. Toutes les études en genre queer studies, études sur la race, études postcoloniales, tout cet univers converge et a convergé vers les cultural studies. Donc, il y a finalement des recherches en termes d'objets qui éclatent la recherche, mais qui réinvestissent du potentiel critique, c'est très important. Donc, les études sur le genre, les études féministes, comment, effectivement, aux États-Unis en particulier, ou en Inde ou en Indonésie, les race studies sont réinvestis pour comprendre, dans des cadres institutionnels donnés, comment les pratiques se perpétuent et se reproduisent. D'accord? Alors, sauf que c'est une constellation où les sous-sous-sous-champs ne se parlent pas forcément, c'est quelque chose qu'on connaît très bien en sciences de la communication. De manière intéressante, elle s'ancre de manière résolue dans des perspectives critiques qui prennent en compte justement la perspective institutionnelle plus large. Mais la condition de ça, c'est le dépassement des interactions avec des médias situés, dont tu dis très bien qu'elles ont à voir avec une perspective fonctionnaliste, contre laquelle il faut rappeler que les cultural studies se sont construites. En particulier par rapport à la communication de masse, parce que l'une des entrées des cultural studies à l'origine, Hogarth, Williams et consorts, c'est de récuser un intérêt par trop centré sur les communications de masse, en disant non, 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 ça ne marche pas, un récepteur complètement dématérialisé, atomisé, tous pareils, ça ne marche pas, il faut aller voir ce qui se passe dans les contextes. Et là, avec le contexte d'articulation, on avait du potentiel critique, un potentiel critique. Dans les premières générations. À partir de là, quand la production est laissée de côté et la textualité, on fait de l'ethnographie des usages, on perd de vue tout ça. Sauf que, dans un moment ultérieur, par je ne sais quelle alchimie, effectivement, les cultural studies ont convergé finalement avec des intérêts qui viennent de l'Inde, subaltern studies, où on va s'intéresser finalement à la reproduction, aux pratiques subalternes, quotidiennes, finalement, de vastes pans de populations et d'acteurs sociaux qui n'ont pas de statut en termes de prestige par rapport aux objets classiques qui étaient plus massifs ou plus macro, si tu veux. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Je vais peut-être poursuivre, si vous me permettez. L'une des questions, l'une des choses qui me frappe beaucoup dans les recherches, on va dire, en sociologie de la culture, non, l'expression n'est pas très bonne, en fait. Pas du tout. Quand on parle de pratiques culturelles, par exemple, oui. Et puis je vais prendre un champ que je connais bien, c'est les travaux sur Internet. J'ai l'impression qu'en fait, alors on a mis l'accent, éventuellement on va mettre l'accent sur certains rapports de domination, et des cultural studies ont aidé, par exemple, à mettre l'accent sur les rapports de domination en ce qui concerne le genre, en ce qui concerne aussi donc les rapports de genre, les rapports interculturels. Mais, alors ce serait un vaste débat, mais j'ai l'impression que dans une certaine mesure, les classes sociales ont disparu. Et ça rejoint un débat de certains sociologues aux États-Unis. Malheureusement, j'ai pas le nom de celui auquel je pense. Mais là aussi, je pourrais trouver, qui disait par exemple que les travaux en culture socialiste vont mettre l'accent, par exemple, aux États-Unis sur les relations entre les différentes communautés. Et parler, par exemple, il parle notamment de la communauté afro-américaine.
Oui.
Il dit en fait. Oui, mais tous les travaux sur les cultural studies ont mis l'accent sur des rapports interculturels, mais il dit fondamentalement, ce qui domine, c'est les rapports sociaux et le fait qu'ils font partie, la majorité de la communauté noire aux États-Unis fait partie, en fait, tout simplement des classes sociales exploitées.
Alors,
il dit que des nouvelles formes de domination ont eu tendance, mettre l'accent sur les nouvelles formes de domination a eu tendance à faire complètement oublier les formes de domination traditionnelles liées, par exemple, à la production.
Ok, je vais référer simplement à un point très intéressant qui est celui des études féministes dans les pays du tiers-monde. Et tu vas voir que c'est en lien avec l'interrogation que tu as. Les études féministes se sont construites contre la recherche critique mainstream marxiste, en disant effectivement par un intérêt trop centré, exclusif sur les relations de classe, les relations de genre vous échappent. Ça ne marche pas, effectivement. Il faut complexifier l'analyse. Alors, cette recherche féministe, mainstream, a exporté son discours dans des pays africains et latino-américains. Et exactement la même critique que les féministes ont faite à l'école critique, aux marxistes, eh bien, c'est pas compliqué, les féministes africaines et latino-américaines l'ont fait à la recherche féministe mainstream en disant finalement quand vous récusez, quand vous dites que c'est pas assez intéressé, que ça ne prend pas assez en compte les relations de genre, de la même manière on vous tend le miroir en vous disant qu'il y a des rapports de race qui sont essentiels que vous laissez de côté. Il faut les intégrer, et ça dans les pays africains ça fait un clash extrêmement important entre la pensée de gauche et la pensée féministe. Et c'était des débats épiques, c'était extraordinaire. En d'autres termes, je peux comprendre qu'il y ait des courants de recherche critiques qui sont en lien avec les cultural studies et au centre de l'analyse desquelles on ne va pas retrouver les catégories classiques en termes de classe sociale. Parce que, effectivement, dans les configurations, les contextes, les sites dont on parlait tantôt, il y a des éléments qui sont aussi importants, sinon plus importants que les rapports de classe dans des configurations spatio-temporelles données. On a quand même le ferment critique qui est là, mais c'est un vaste débat.
Je voulais faire du pouce sur l'état sur l'émancipation. Et aussi, je pense que Omar, tu l'as dit, je ne suis pas certain que de retourner à l'économie politique ou à la sociologie critique sera suffisant. Je m'explique. En ce moment, me semble-t-il, l'idéologie dominante se présente justement comme une non-idéologie. C'est-à-dire technicienne, logique, rationnelle, autoporteur, autoportante, qui prend sa source dans le fonctionnement, cette sorte d'autoréférentialité. Ce n'est pas une donnée sociale, c'est vraiment quelque chose qui est produit de pragmatisme. D'ailleurs, c'est pour ça que le mot déterminisme social fait frimer ces temps-ci, comme si on avait trop apporté. Alors qu'en fait, c'est celui-ci qui est complètement miné. Et c'est ce que Michel, puisque tu l'as mentionné, Éric, appelait mode de reproduction opérationnelle décisionnelle versus le symbolique. Donc, ce qui veut dire que la perspective d'une critique doit, avant même de se faire entendre, de faire revivre la possibilité même de possibilité d'un terrain idéologique. Parce que c'est bien lui qui est évacué en ce moment. Et ce qui se passe, c'est que tous les critères premiers, épistémologiques, si je peux dire, regardons ce qui se passe avec les médias dits sociaux. Le social est rendu maintenant assimilé à une forme de communauté.
Communauté, c'est un groupe social, c'est stéréotypé. Les communautés, j'arrive de certains colloques où les gens de marketing se donnent à cœur joie. Communauté veut dire, en fait, une communauté de marketing. Où on commence à engager maintenant des community managers qui vont former une bonne communauté machinique bien faite, toute vouée à la production, à la marchandisation ou l'industrialisation. Je ne sais pas, c'est votre domaine, je ne sais pas. Mais il me semble que les catégories mêmes avec lesquelles nous pensons que le social sont maintenant à la dérive. Et voilà pourquoi je t'ai cité le père Karl. Pourquoi pas? C'est-à-dire que d'économie politique, retournons à la philosophie politique aussi. C'est-à-dire qu'il faut reprendre les catégories. Je veux dire, Bourdieu, dans le sport de combat, ça n'avait rien, au contraire, mais il avait toujours, à cette époque, il y avait encore la notion d'idéologie. Il y avait des luttes claires. Maintenant, aller dans un colloque sur le Web 2.0, j'en ai fait les frais à mes départs, il est au coin. Je veux dire, c'est totalement la terre. D'ailleurs, on ne dit plus capitalisme, on dit économie. On ne dit pas société, on ne dit plus société, on dit système. Et à ce moment-là, tu arrives avec un discours, ben voilà, ben non, l'ordre des choses fonctionne comme ça. Et c'est ça l'opérationnel décisionnel que disait Michel. C'est-à-dire que le pouvoir, finalement, il n'est pas repérable, il n'est pas inscrit dans une idéologie particulière, il devient inscrit à même l'omniscience, l'immanence d'un monde qui serait entièrement voué à sa propre production. Et non pas une représentation, c'est-à-dire, on tombe sous l'égide du social, à la limite, c'est-à-dire de l'idéologie, de l'esthétique, donc du débat. Et on retrouverait notre véritable nature d'être sociaux. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas sûr. C'est même, et même en sociologie critique, ça va de l'aide de ce côté-là aussi. Dans la sociologie en général, celui de la personne qui a le pied sur le corps d'oxygène de l'air pour qu'on puisse nourrir le patient. Parce que ça ne va pas très bien. Donc, je m'excuse, commentaire, question, mais voilà. La critique, comme tu dis, si on le fait entre nous, dans les revues spécialisées, bon, ça va. Mais dès qu'on sort et on va dans, supposément, le monde, c'est avec lequel je suis contre, mais il faut faire une job de bras épistémologique. Il faut expliquer que, l'idéologie, je me ramasse en train de faire un cours sur l'idéologie avant de pouvoir parler d'idéologie. Parce qu'il n'y a pas du tout ennemi. Parce qu'on a un langage d'optimisation, de performance, de textualisation, vraiment dans le mode d'emploi. Et là, les médias sociaux, des fois qu'on emploie dans les discours dominants, c'est ça. C'est une extension d'une dynamique marchande de marketing. Et là, on rejoint ce que Simondon disait, une véritable communauté, c'est une machine. Les bases mêmes de son fondement ne sont pas mises en cause. Tout le monde s'entend pour faire naturellement partie de cette communauté, puisqu'on l'a choisie. Une fois qu'elle est là, elle fonctionne comme une machine. Il n'y a pas de dissidence, il n'y a pas d'opposition, etc. Alors, je te relance la question, ton opinion là-dessus, s'il ne faudrait pas effectivement refaire le chemin inverse. Ça, tu nous rappelles à Marx, et bien, retournons même jusqu'à la philosophie politique et réhabilitons comme le contexte de la notion d'idéologie, que ce n'est pas juste normatif, l'idéologie, c'est aussi descriptif. Il n'y a pas un monde qui n'est pas idéologique, qui n'est pas le fruit de, hein, d'ailleurs, ce que Foirol dit, d'ailleurs, dans le texte sur le cahier sur Marx. C'est un concept qui révèle le discours, mais aussi qui décrit le monde, qui est produit, et qui est reproduit par ce discours-là. En conclusion, la mouche ne sort pas de la bouteille à mouche, par paraphraser Wittgenstein. Et tous les disruptures chez Dieu, notamment, de faire rupture, mais qui est bien illusoire, parce que finalement, on ne sort pas de la bouteille. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est aussi où je pars, aussi la rupture que je fais. Ouais. Mais je me demande si, contrairement à Bourdieu, on n'a pas un obstacle de plus, c'est-à-dire retourner aux catégories premières, qui ne soient pas spoilées, excusez le terme d'effort, mais spoilées par un usage vernaculaire courant et qui, malheureusement, rentre de plus en plus à l'université. À tout point de vue, je veux dire.
Je vais le prendre comme un commentaire. C'est intéressant, je ne sais pas quoi y répondre. Sinon, j'ai lu quelque chose qui évoque ça il y a quelque temps. Mannheim, c'est quoi l'ouvrage?
L'idéologie.
C'est ça. On s'en reparlera. Je ne veux pas trop m'avancer, mais t'en sais plus que moi sur ce rayon. Alors, je le prends. Je le prends comme un commentaire.
Ça rapproche un peu l'interdisciplinarité que tu appliques. Moi, je cherche des. Ce que j'aime, Maxime, par exemple, qui fait partie et qui est venu présenter, il montre comment le concept même de travail est totalement, sans neutre objectif, est en fait porté par toute l'idéologie de la dynamique capitaliste. Donc, essayer de passer, de sortir du travail pendant son travail, de vivre par le capitalisme, c'est serpents qui sont là, puis on tourne en rond. Et je me demande, c'est pas un peu de ça. Il faut revenir à l'épistémologie, refaire des catégories, essayer de repenser le monde différemment.
En fait, en tant que chercheur en communication, on devrait d'autant plus être conscient en permanence que les mots ne sont jamais neutres et qu'ils ont une dimension idéologique forte. Et peut-être, par exemple, quand on parle, c'est l'exemple que je prends régulièrement, mais quel collègue n'emploie pas le mot clientèle pour parler des étudiants, par exemple?
Oui, mais en être conscient et le reconduire dans le langage, ça nous en fait sortir comment? C'est le langage naturel, on est pris avec ces catégories-là.
Et tellement de subventions, puis c'est même idéologie. Non, mais là, c'est juste pour être plus assez. Tu mentionnes le mot idéologie, qui ne suffit pas de conspiration, puis arrête de
lire. C'est vrai.
Alors, comment discuter de ces démonstrations?
Par contre, il n'y a pas une l'air disciplinaire.
Il n'y a pas une HE, je crois, dans l'ancien nom.
Appropriation.
En fait, moi, j'avais l'impression que, ce qu'André a dit, que tu avais présenté au début, quand tu parlais du retour, de la reprise, il me semblait que l'idéologie revenait.
Oui.
Il me semble que dans un des transparents que j'ai dit, c'est ça qu'on a vu. Ça m'a frappé parce que moi, je me suis beaucoup intéressée au culture studies en cours dans le cadre de mon mémoire d'éducation, en éducation aux médias, donc il y a plusieurs années maintenant, à l'époque où le paradigme dominant, c'était les culture studies. Mm-hmm. Et à ce moment-là, on étudiait l'idéologie. C'était une des entrées principales d'éducation aux médias. On s'est pas eu dans ces deux-là, l'éducation aux médias. Et j'avais été frappée à cette époque-là, parce que moi, j'ai suivi ça à peu près jusqu'au moment où ta troisième étape, ton troisième morceau de robot est arrivé, ta consommation. Et tout à coup, les approches critiques d'éducation aux médias découvraient le public, puis étaient comme désarçonnés parce qu'au fond, c'était vraiment coupé de réception. Et moi, donc, j'ai à peu près fini dans ces années-là de travailler en éducation aux médias, je n'ai pas été à jour sur ce qui s'est fait après, je ne sais pas si c'est encore les culture studies, ce volet-là qui était très centré au départ sur la production. Et quand on faisait l'éducation aux médias, on enseignait beaucoup la réglementation de la propriété des médias. Donc, on était centré sur le macro. Puis moi, c'était vraiment, je voyais le début, là, quand le public arrivait. Je trouvais ça intéressant. Moi, ce que j'ai compris de ta présentation, c'est qu'il y avait un bout de chemin qui avait été fait, au moins, avec les critical culture studies, et qu'on était revenu, qu'on avait intégré ce morceau-là, qui était la réception de la consommation, des études ethno, tout ça. Puis je me souviens qu'il y avait eu un texte qui avait été fait par Len Masterman, qui était un peu gourou à l'éducation critique aux médias, avec un spécialiste du marketing. Ça faisait vraiment un mariage incongru, là, où le gars qui était très à gauche était obligé d'apprendre du gars de marketing, c'était quoi le public, avec à ce moment-là, c'était toute l'école, votre clientèle peut être composée de la personnalité cool, le cheval, je ne sais pas trop, c'était fou. Et puis, c'est comme si l'éducation aux médias essayait d'avaler ces bébés-là, c'était étrange, en voulant se montrer respectueux à l'école publique, parce que tu as l'air fou quand tu es de gauche, puis que tu as donné l'impression, tu as toujours pensé que tout ton public était naïf, que c'est l'école judéo. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est que finalement, on était passé par-dessus ça, qu'on avait avalé ça, mais qu'on venait à l'idéologie. C'est ça que je voudrais voir, parce que à l'époque, j'avais entre autres analysé les bibliographies. J'avais comparé les bibliographies en éducation aux médias. J'étais capable quasiment de dater dans le temps quand, j'appelais ça le fantôme d'Alcher, quand Alcher disparaissait, quand le mot idéologie disparaissait des titres, des ouvrages en éducation aux médias, tout à coup, ça devenait tabou.
Okay.
Et c'est pour ça qu'en André dit l'idéologie, j'espère qu'on n'en parle plus. Je pensais que toi, tu disais que c'était revenu. Je me disais, tant mieux, je suis tannée de dire, moi, que je passe ma vie à dire qu'il y a toujours de l'idéologie, que l'idéologie, c'est pas négatif, que tout le monde a une vision du monde, puis bon. Mais est-ce que j'ai mal compris quand tu dis que
non.
ça revient, que ça serait un gain, en tout cas, je trouve, pour la recherche
critique? Tu as très bien compris. C'est revenu dans les Critical Cultural Studies. Okay. Ça date de 15-17 ans, ce dont je parle. C'est l'article de Grossberg. D'accord? Alors, c'est une tentative finalement, tu l'as très bien dit, les deux moments qui avaient été flushés, de les réinvestir dans la recherche et de retourner aux catégories de la critique, aliénation, idéologie et consort. Et de manière, il n'a pas été le seul. Aux États-Unis, en Angleterre, en Suède, tu as un certain courant de recherche, effectivement, qui repose de manière plus critique, plus forte, les bases du projet originel des Cultural Studies. Ah, ça. c'est revenu.
Parce que c'était central à un moment donné. Moi, j'avais lu un texte que je trouvais intéressant, je pense que c'était de Butler, qui disait « Préparez-vous si vous faites vraiment d'éducation aux médias aux critiques, parce que si vous enseignez à vos étudiants ce que c'est l'idéologie, préparez-vous. Mm-hmm. » Moi, quand j'expliquais ça, je me disais « Inquiétez quoi, attachez votre truc avec la broche. » Parce que si vous enseignez à des étudiants secondaires, c'est quoi l'idéologie qu'ils comprennent, c'est vous d'abord qui vont mettre en question. Tu remets l'autorité, tu remets le prof en question, tu ne mets pas. C'est pour ça que je suis contente de voir qu'au moins, si ça revient, ça va prendre peut-être plus de temps à revenir ailleurs, mais au moins, c'est pas bien recherché.
Rosberg, il répond justement quand il parle de culturalisme.
Oui.
Il dit qu'on est tombé dans l'idéologie du culturalisme. Parce que c'est du culturel au culturalisme.
C'est ça.
Et le piège qu'avait voulu dénoncer justement les études culturelles, parce qu'ils faisaient la critique avec l'autre. Et le fonctionnalisme, ils sont retombés dans le même piège, parce que les études culturelles se sont transformées en idéologie. Donc là où les autres entrevoyaient qu'il y avait toujours de la manipulation et donc de l'aliénation, eux en fait ils sont tombés dans le piège culturaliste qui fait que en passant toujours du contextualisation, ils sont toujours tombés dans la réalisation.
Il y a Michel qui avait levé la main, et puis en fait, parce que je pense qu'on est tout à fait là, qu'on a quasiment basculé dans ton intervention, Michel.
Mais vas-y. Vas-y, vas-y. Dans l'histoire de ces comptes, en fait, c'est de dire qu'il n'y a pas seulement l'acte de réception, mais l'acte de consommation. Et dans ce acte de consommation, on a beau être critique au contenu, nous faisons quand même tout de même partie d'un système. Je m'explique. À l'heure actuelle, on décrit la concentration des médias. On met au pilori Télato, Québéca. Par contre, combien de personnes encore sont abonnées chez le compte? Combien achète finalement le journal de Montréal, etc., etc. Or, ça a repris presque une vingtaine de mois avant que le CSM, le syndicat, décide de mettre une manifestation auquel je convie, une manifestation, justement, où on dit boycottons ce journal. Et ça a repris un an et demi avant qu'on prenne, je ne sais pas si on prend conscience vraiment de l'importance que cet acte de consommation pour rejoindre des gens qui travaillent en environnement et donc, un acte de consommation responsable ou un acte politique de consommer. Dans ce cas-ci, je crois que c'est un aspect critique qui me paraît essentiel.
Je sais quand même que moi, je suis désabonnée depuis le fond, ça n'a pas compris. Justement, par investissant mes étudiants, qu'on ne peut pas enseigner la réglementation de la propriété des médias et de la modèle des autres.
Non, c'est exactement pour dire que et des consommateurs, mais jusqu'à un certain point, il est difficile de poser un regard critique sans avoir un geste critique aussi, ouais, une action critique par rapport à ça. Parce qu'on reste dans l'ordre du discours complètement et sans action. Et c'est là que finalement, ça devient très. On rentre dans un pessimisme absolument incroyable parce qu'on a beau décrier, c'est ce dont je vais parler tantôt, donc on a beau critiquer, mais si on ne crée rien en substitution,
je vous précise quand même, je vous précise quand même que si c'est ben André très court après. Attends deux secondes, je vais quand même terminer ma phrase. C'est que, à ma connaissance, alors je fais plutôt partie des gens qui pensent que l'opinion publique n'existe pas, comme dirait Bourdieu, mais dans le dernier sondage, presque 75% de la population au Québec a une opinion très très favorable de Pierre Campelado.
Ah oui ?
Eh oui, 75%. Il y a un sondage récent là-dessus. Ça faisait partie de l'enquête faite par l'actualité sur.
Par qui le sondage ?
Sur l'actualité. Sur l'actualité. L'actualité. Non, parce qu'on va faire une pause de quelques minutes et puis après c'est Michel qui a.
Juste un mot, ouais. Final, je suis en train de Michel disait oui, bon, à Dion Studio, tu vois. Ah ouais, c'est belle, ok, ouais.
Ah ouais. Mais
deuxièmement, l'autre, je suis intéressant sur l'activisme culturel et le programme phare de Google Company. Là, on le voit que Mme marchandisation est rentrée, eh bien, on peut comprendre fonction. Alors, il y a de vrai que la manifestation de la culture, c'est-à-dire le produit culturel. Et regardez maintenant de l'UNESCO à Londres, la culture de conception de mode d'être anthropologique qu'elle était est devenue l'industrie de production culturelle. Une culture vivante, c'est quelque chose qui est produit. Et là, on voit bien que là, la logique du faire, la technicisation, elle est portée effectivement par cette logique industrielle-là. Et les étudiants sont tous étonnés lorsqu'on dit la culture, oui, qu'elle produit, c'est combien? C'est complètement réifié. Et je pense que c'est effectivement une réponse au relativisme. Tout est relatif, ah, le processus est correct. Et le processus de rendre concret, parce que sinon on tombe dans la relativité des idéologies, ben c'est le produit. Alors voilà, protéger la diversité culturelle, c'est protéger les sombreros et les livres d'avant.
À force de contextualiser, renouveler la réalité et le rapport des forces originales.
Voilà.
S'il y a quelque chose qui fait consensus chez Marx, je crois que l'esprit normal, c'est ça.
Tout à fait.
On fait une pause de 5 minutes maximum et on reprend avec Michel Sénécal.